France Inter, le 18-20.
Édition spéciale d'une semaine en France ce soir pour la dernière de la saison. Alors que l'exécutif vient de relancer l'idée d'un service national universel, ce soir, on vous présente un dispositif mis en place par France Inter il y a 3 ans, déjà, qui contribue à sa façon aussi à former de futurs citoyens. Interclasse a été lancé à la rentrée 2015. Il s'adresse à des collégiens et des lycéens des zones d'éducation prioritaires. Grâce à ce dispositif, plusieurs centaines d'élèves ont eu droit à une initiation aux médias et à l'information. Interclasse leur a permis de mieux comprendre le métier de journaliste, d'en saisir les difficultés, d'en savourer les plaisirs et surtout de comprendre comment on fabrique l'information. Vous allez d'ailleurs découvrir cet été encore sur notre antenne les reportages de ces jeunes journalistes. Ce soir, 3 d'entre eux sont avec nous dans ce studio. Ils nous diront comment ils ont vécu cette expérience et ce qu'elle leur a apporté. Avec nous également 2 des enseignants impliqués dans le dispositif et 3 des volontaires de France Inter qui sont allés à la rencontre des élèves. À commencer par Emmanuel Davier qui pilote toute l'opération ici à Radio France. Sans oublier bien sûr Laurence Bloch, la directrice de votre radio préférée à l'origine de cette opération. Et puis rappelons que cette émission s'appelle Une semaine en France. Alors on reviendra, comme tous les vendredis, sur l'actualité de la semaine. Ce soir, ce sont nos jeunes élèves journalistes qui commenteront cette actualité. À 19h20 au téléphone sonne, on élargira le débat avec vos questions à vous tous, où que vous soyez, car l'éducation aux médias a vocation à concerner tous les élèves partout en France, et même les adultes. Serge Barbet, le directeur délégué du CLEMI, nous rejoindra pour faire le point sur les expériences en cours. Sachez que le standard attend déjà vos appels au 01 45 24 7000.
Claire Servagen. Une semaine en France.
Bonsoir Chloé, bonsoir Kelvin, bonsoir Ouria.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les trois. Place aux jeunes ce soir. Pour commencer, peut-être une petite question à Kelvin et Chloé, parce que je crois que vous sortez à peine des examens. Kelvin, pour toi, c'était le brevet hier et même aujourd'hui, ça va ?
Oui, ça va.
Pas trop lessivé ?
Non, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile que le brevet blanc.
Ce matin, c'était quoi ? Histoire géo, j'ai vu un sujet sur la résistance, un autre sur la Première Guerre mondiale, c'est ça ?
Non, c'était sur l'occupation de 1940 à 1944, c'était sur un texte.
Et qu'est-ce que tu as raconté ?
C'était un témoignage de Jean-Jacques Auduc, où il nous racontait son histoire quand il était enfant, ce qu'il faisait quand la résistance allait envoyer... faire des missions, c'est un agent de liaison, on peut dire ça comme ça, et voilà.
Bon, visiblement, ça s'est bien passé.
Oui.
Chloé, toi, tu es en première, c'est ça ? C'était le bac français ?
Oui, j'ai terminé les épreuves hier.
Ça s'est bien passé ?
Oui, ça va, même si j'ai pas trop aimé les sujets, je m'en suis sortie quand même.
Ça s'est pas trop mal passé, quoi ?
Oui, voilà.
Ouria, toi, tu es en seconde, c'est ça ?
C'est ça.
Bon, donc, il y avait rien cette année, tranquille.
Ouais, l'année cool, hein, franchement.
Hein, la belle vie, hein.
Exactement.
Mais ça va pas durer, hein.
Malheureusement.
Alors, on va avoir 3 quarts d'heure pour parler avec vous d'Interclasse, écouter certains de vos reportages, enfin, des extraits, pas tout. Mais j'aimerais avant tout, vous me disiez peut-être un petit mot de cette expérience. Et puis d'abord, est-ce que vous êtes content d'être de retour ici ce soir, Ouria?
Ah ouais, carrément, je suis hyper contente d'être là de retour. Déjà pour voir Emmanuel, Yanis Roder. Et puis quand même, ça a été une superbe expérience, donc ça fait toujours plaisir de revenir.
Pourquoi c'est une belle expérience ?
Parce que Interclasse nous a ouvert, nous a montré plein de choses. Enfin, grâce à Interclasse, j'ai compris que rien n'est impossible et qu'il faut oser pour faire ce qu'on veut faire. Il y a deux ans, je crois, enfin en tout cas pour la première saison d'Interclasse. J'y étais.
Toi, c'était quand tu étais au...
En troisième.
En troisième, ouais, au collège Pierre de Jeter à Saint-Denis.
C'est ça. Hein,
mais aujourd'hui, ouais. Tu es au lycée Suger de Saint-Denis. Donc, oui. Ça fait déjà un petit moment, t'as un peu de recul sur cette affaire.
Oui, bien sûr. Et lors de la première saison, j'étais extrêmement timide. Enfin, j'osais à peine parler. Et puis, ça m'a totalement changée et j'en suis ravie.
T'es devenue bavarde, c'est ça ?
Exactement. Hein ? Tout à fait.
Tu m'as dit, aujourd'hui, j'arrête pas de parler. J'ai même tendance à un petit peu saouler mes parents, hein, c'est
oui.
ça ?
Oui, totalement, ouais.
En tout cas, ça t'a donné confiance en toi, c'est ça ?
Oui, bien sûr.
Et le fait de faire des reportages, ça t'a ouvert les yeux, peut-être, sur certaines choses ?
Oui. Enfin, avant, je pensais que le métier de journaliste était quelque chose de très facile. Mais au final, pas du tout. Enfin, il faut avoir pas mal de compétences. Enfin, donc plusieurs cordes à son arc. Avoir une bonne qualité rédactionnelle. Ne pas avoir peur de s'exprimer en public. Être toujours à l'affût d'une information et Voilà, ouais. C'est...
voilà, à fond dedans maintenant. Kelvin, pour toi, c'est de l'histoire récente, puisque c'était cette année. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans cette aventure ?
Alors, ce qui m'a plu, c'est le fait qu'on ait pu se prendre pour des journalistes, interviewer plusieurs personnes, comme dans mon cas Mona Zegaï, et une sociologue, une prof de grande section, si je ne me trompe pas.
Alors ça, tu fais référence à un reportage, on en entendra un extrait hein, tout à l'heure, sur les stéréotypes de genre chez les enfants. C'est d'ailleurs très intéressant. Je crois que c'est aussi la visite de la maison de la radio qui t'a,
oui,
qui t'a pas
aimé.
Mal plu. Hein.
Oui, j'ai beaucoup aimé cette visite, ça nous a permis de découvrir un nouvel endroit. On a fait plusieurs ateliers. Surtout le premier atelier où on était dans un studio et qu'on présentait une émission, j'ai beaucoup aimé.
Et toi, Chloé, donc tu es en première.
Oui.
Cette expérience, qu'est-ce que tu en as retenu ?
J'ai retenu que les médias, ils sont là pour nous informer et que tout ce qu'on entend sur, par exemple, les fake news, ici, on a appris à différencier les bonnes et mauvaises informations et... D'ailleurs, dans ma classe, il y a plein de gens qui veulent devenir journalistes, donc ça les a vraiment aidés à confirmer ce choix-là.
Parce que ça veut dire que tu ne t'informais pas de la même façon avant ?
J'écoutais pas la radio avant.
Ça veut dire que tu étais sur ton smartphone et c'était là,
oui.
De là que venaient les informations ?
Oui, principalement du smartphone sur Twitter, par exemple.
Sans trop faire la différence entre ce qui arrivait d'un endroit ou d'un autre ?
Si, quand même.
Si, quand même ?
Oui, quand même.
Et aujourd'hui, alors, quand tu as besoin d'une information, comment tu fais ?
C'est plus le journal... que je regarde sur TF1 ou d'autres chaînes, mais je continue toujours d'être sur mon téléphone parce que c'est plus facile pour moi, entre guillemets. Oui.
Alors, le téléphone, c'est très important. Hein. On en parlera tout à l'heure, Laurence Bloch. Hein. Pour ça que vous mettez toutes les informations sur les téléphones. Alors, je crois savoir que vous avez travaillé tous les trois cette année sur la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. C'est bien ça ?
Oui. Oui.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes parti de ces trois mots et que vous avez cherché à illustrer, Kelvin ?
Alors, pour nous, il y avait quatre groupes. Donc, chaque groupe devait choisir un thème, liberté, égalité ou fraternité. Donc, pour mon groupe, ça a été l'égalité. Et après, à partir de ça, on a dû choisir l'angle. Donc, on est passé par l'inégalité homme-femme dans le monde du sport. Mais après, on a finalement choisi les stéréotypes dans la petite enfance. Et après, à partir de ça, on a fait des études de documents. Et c'est là qu'on a trouvé la sociologue Mona Zegaï et qu'on a interviewé après.
Chloé, toi, avec ta classe, vous avez travaillé sur quoi ?
On a travaillé, on a choisi la liberté. Et donc, au début, on est parti sur avons-nous la liberté de s'habiller comme on veut en France, en général ? Mais on s'est plus spécialisé sur le monde professionnel. Et grâce à ça, on est parti voir des députés à l'Assemblée nationale pour leur demander si là-bas, il y avait un dress code pour les députés et on a vu qu'on leur a posé des questions à propos de ça.
Et bien justement, on va écouter un extrait de ce reportage qui a été fait à l'Assemblée nationale sur la tenue des députés. C'est un extrait, hein, c'est pas le reportage complet que vous entendrez cet été.
17 juillet 2012, Cécile Duflot, ministre du Logement, prend la parole devant les députés à l'Assemblée.
Monsieur le Président...
Allez, écoutez.
Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement...
Vêtue d'une robe blanche à fleurs bleues, elle est accueillie par des sifflets et des ricanements.
Donc bonjour Madame Sylvie, moi c'est Benoît. Déjà je tenais à vous dire que votre robe elle était très belle.
Elle se souvient.
Alors je m'attendais pas du tout à ce que cette robe fasse un quelconque bazar. D'ailleurs on le voit dans l'image, je suis surprise. C'était très brutal et le président de l'Assemblée nationale il essaye de calmer les gens parce qu'il a eu peur que je craque. Parce que vraiment il y en a qui ont dit des choses très vulgaires, etc. C'était très visible qu'il y avait un problème, pas avec les robes mais avec les femmes. Et qu'il y avait du machisme en politique. Et donc, pour le coup, je suis finalement contente qu'elle ait eu cette fonction-là pour toutes les autres femmes. Même si, sur le moment, c'était désagréable.
Nous sommes allés à l'Assemblée nationale voir si le code vestimentaire avait évolué. Jean-Luc Warsmann est député depuis 22 ans et ancien président de la Commission des lois.
Bonjour.
D'après vous, quel est le style vestimentaire que les hommes et les femmes devraient adopter à l'Assemblée nationale ?
Oui, je crois que c'est très clair, hein. C'est dans le règlement de l'Assemblée. Il y a une veste et cravate pour les hommes. C'est une question de respect des personnes qu'on représente. Et chaque fois qu'il y a eu des volontés d'avoir des autres habits, ça a été des volontés de provocation qui n'étaient pas positives pour l'Assemblée ni pour le pays.
Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. C'était le club de mon ami Antoine.
François Ruffin, député de la France Insoumise, est arrivé à l'Assemblée avec un maillot de foot.
Le président de séance a qualifié ma tenue d'indigne
et d'irrespectueuse.
Yael Braun-Pivet est présidente de la commission des lois.
Ce qui a été sanctionné, c'est pas tant le maillot de foot en lui-même, mais l'attitude, le message qu'il y avait derrière et surtout la façon de réagir à une interpellation du président de l'Assemblée nationale.
Un reportage de Delphine Lim,
Benoît Belhadj,
Djara Alassane,
Théoué Chloé,
Bakodou,
Mambé Cissé,
Gersin Lauriane,
pour Interclass.
Bravo Chloé pour ce reportage auquel tu as participé, formidable.
Merci, c'est grâce à mes camarades aussi.
Ah bah oui, non, on salue tout le monde, mais j'aimerais savoir...
Et Vincent Pellegrini, oui. Qui vous a encadré et qui est journaliste à la direction des sports de Radio France.
Oui, bien sûr.
Alors voilà, Emmanuel Davier qui est donc avec nous ce soir et qui pilote tout le dispositif Interclasse. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Bonsoir aussi à Laurence Bloch, la directrice de France Inter. Et bonsoir à Yanis Roder, qui est arrivé il y a à peu près 30 secondes.
Bonsoir.
Dans ce studio. Hein. C'est compliqué la vie d'un prof. Hein.
Oui, c'est compliqué avec les embouteillages.
Professeur d'histoire-géographie au Collège Pierre de Jeter de Saint-Denis. On va évidemment revenir avec vous trois sur la genèse d'Interclasse. Mais un tout petit mot quand même sur ce reportage qu'on vient d'entendre. C'est incroyable, c'est un vrai reportage, Laurence Bloch. Hein.
C'est professionnel. Absolument, mais c'était l'idée d'Interclasse, c'était de faire en sorte que les élèves éprouvent ce que c'est que le métier de journaliste, ce que c'est qu'une information, comment on la recoupe, comment on fait de l'interview, comment on fait du reportage, la différence, qu'est-ce que c'est qu'une revue de presse. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on écoute les reportages, c'est plus que des reportages d'ailleurs, on leur a confié quand même l'élément le plus noble du reportage sur France Inter, c'est ce qu'on appelle le zoom, c'est-à-dire faire entendre une réalité en 4 minutes 30. Et ça, c'est fortiche, parce qu'il faut plusieurs voix, parce qu'il faut un climat. Je vois Chloé qui dit oui, et c'est ça qu'on leur a appris, c'est-à-dire quelque part à leur faire entendre un sujet aussi compliqué que le sujet de la liberté en l'incarnant, en allant à l'Assemblée nationale, en choisissant ce sujet et faisant en sorte que la problématique soit traitée et qu'on l'entende. Et je leur dis chapeau parce que franchement, moi qui ai travaillé très longtemps sur France Culture, la longue durée, c'est bien plus confort que le format court de 4 minutes 30.
Emmanuel Davier, vous qui pilotez cette opération depuis le début, qui en est la grande prêtresse, la responsable, vous devez être quand même assez fière quand vous entendez ça.
Je suis fière pour eux d'abord parce que ça relève vraiment du défi que de faire de la radio quand on est néophyte. Et c'est vrai que Laurence a souligné un aspect totalement innovant du dispositif, c'est que ils travaillent dans des conditions professionnelles et donc à ce titre ils sont hyper responsabilisés et on fait pas semblant, c'est pas pour de faux, on n'est pas dans une radio où personne à part la classe ou quelques copains vont entendre ce qu'on fait. Non, là tous les auditeurs de France Inter en matinale et dans les émissions qui seront diffusées cet été vont pouvoir entendre la qualité de leur travail. Alors certes ils sont encadrés par des journalistes professionnels, mais je vous assure que moi je trouve que faire un tel travail entre 13 et 17 ans, c'est remarquable, vraiment.
Ouria, quand tu pars faire un reportage comme ça, sachant qu'il va passer sur France Inter, tu arrives et qu'est-ce que ça implique ? Un vrai respect ?
Carrément, ouais, ça implique un vrai respect. Et puis, surtout, On va
t'aider, Ouria, on va revenir. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne avant tout sur la genèse de cette histoire.
France Inter.
Interclasse. Les ados au micro.
Interclasse.
Les ados font de la radio comme des pros.
Alors, Interclasse a une histoire, Laurence Bloch, une histoire qui nous ramène à janvier 2015, les attentats, Charlie Hebdo, Liber Kacher.
Policière qui est assassinée aussi.
Absolument, la grande marche du 11 janvier, et puis ensuite, 7 minutes de silence dans les établissements scolaires, qui a été plus ou moins respecté, et puis surtout des élèves qui, pour certains, ont eu des propos qui ont pu choquer après ce qui s'est passé. Je voudrais vous faire écouter un extrait de ce qui était passé dans le journal de 13h de France Inter le 15 janvier 2015. C'était au micro de Sandy Dauphin, une élève devant un lycée parisien. Voilà ce qu'elle disait après les attentats.
Nous, on n'a aucune preuve que c'est eux qui l'ont fait, que le policier il est vraiment mort. Pour les terroristes, on n'a pas de preuve aussi que c'est eux vraiment qui ont fait l'attentat. Exemple, je vais vous donner un exemple. Ils ont montré comme quoi ils ont téléphoné à Beurre FM TV.
BFM
TV, ouais. Et ils ont nous montré ça, mais ils ont montré ça après la mort. Ils pouvaient nous montrer ça le jour même où il a téléphoné.
Alors on entend quand même vraiment la confusion qui pouvait régner dans l'esprit de cet élève après les attentats. Et c'était pas un cas isolé, Emmanuel Davier. Non, vous êtes venu nous le dire, ce genre-là.
Cette confusion était très partagée. Et c'est vrai que l'éducation nationale officiellement a communiqué, enfin a relevé 200 incidents. Enfin, on peut quand même observer qu'il y a tellement d'enseignants qui nous ont décrit des problèmes lors de cette minute de silence que c'est certainement beaucoup plus que le chiffre officiel donné par la rue de Grenelle. Et c'est vrai que à ce moment-là, le ministère ne communiquait pas beaucoup. Et lorsque l'on voulait des informations sur ce qui se produisait dans les classes ou les cours, il fallait s'adresser directement au ministère de l'Intérieur. Ce qui était quand même un moment journalistique totalement sidérant ces jours qui ont suivi les attentats. Et c'est d'ailleurs dans votre journal, Claire, ensuite, que l'on a pu entendre.
Ce jour-là que Yanis Roder s'est exprimé sur notre antenne en essayant de nous expliquer mais ce qu'avait voulu dire cet élève. Enfin, vous nous avez expliqué à quel point effectivement il y avait un problème de confusion par rapport à l'information, Yanis Roder.
Oui, alors je ne me souviens pas exactement ce que j'ai dit ce
vous
jour-là.
Vous nous avez dit, pas étonnant, ces enfants sont abreuvés d'infos entre lesquelles ils n'arrivent pas à faire le tri. Voilà exactement ce que vous nous aviez dit.
C'est vrai et c'est toujours vrai. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde ultra connecté où les informations arrivent en flux continu à ces élèves qui sont sur tous les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui sont aujourd'hui vraiment les espaces où ils vont s'informer. Et il manque d'outils intellectuels, d'outillage intellectuel pour classer, hiérarchiser et comprendre en fait ce qui leur arrive.
Et c'est en entendant Yanis Roder, Laurence Bloch, que vous vous êtes dit qu'il faut faire quelque chose.
C'est-à-dire que effectivement, avec Emmanuel et avec l'ensemble de la rédaction, on a quand même beaucoup échangé à la fois sur ce pays qui s'était tellement rassemblé le dimanche et dont on avait le sentiment qu'il était tout à fait uni dans cette manifestation incroyable. Et 24 heures après, on avait entendu, ou 48 heures, tous ces incidents qui prouvaient qu'effectivement il y avait quand même deux France ou deux façons d'entendre les choses. Et en écoutant votre 13 heures, Claire, donc j'entends Yanis Roder qui dit, mais on le sait, il y a une information qui circule mal, il y a de fausses informations, des rumeurs. On le dit, nous, professeurs, depuis longtemps, mais on ne nous écoute pas, on est épuisés, on n'en peut plus. Et je me suis dit, il faut qu'une radio comme France Inter réagisse, parce que c'est là où le service public est utile, c'est là où le service public a une mission, et il faut qu'on réagisse en travaillant avec les professeurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous, journalistes, on déclare qu'on va faire les énièmes reportages dans les banlieues, les énièmes moments où on se déporte pour un reportage et puis après on oublie. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on fabrique quelque chose avec les proviseurs, avec les enseignants, avec les élèves. Il faut qu'on travaille dans le temps long parce que là, quelque part, on travaille. J'allais dire on travaille entre nous, c'est faux parce qu'il y a 6 millions d'auditeurs, mais il y a toute une partie de la France qui ne nous écoute pas, qui ne nous connaît pas et qui se défie de nous. Et France Inter doit faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a fabriqué, mais vraiment, je me souviens, j'avais une pochette Yanis Roder sur mon bureau. Et dans la pochette Yanis Roder, petit à petit, on a fabriqué ce qui est un itinéraire non seulement professionnel, mais aussi, je dirais, d'affection. Parce que je crois que c'est l'affection, le temps long et le professionnel qui fait que cette initiative veut dire quelque chose.
L'objectif, Emmanuel Davier, avant tout, c'est quoi? C'est faire comprendre comment on fabrique l'information?
Alors oui, c'est effectivement
pour faire la part des choses.
Le premier objectif, mais c'était aussi le désir de les faire accéder à ce qui nous anime tous ici à France Inter et d'une manière plus générale, je crois, à Radio France, c'est-à-dire la liberté d'expression, l'esprit critique, la curiosité, le plaisir d'apprendre et la découverte de la différence. Et je dois dire que toutes les équipes d'Inter qui se sont embarquées dans cette aventure qui est à la fois pédagogique, journalistique, profondément humaniste, l'ont fait avec une détermination, un appétit et un engagement que Laurence salue et que l'on ne peut que reconnaître. Et le but, bien sûr, c'est de leur faire décrypter l'actualité, de leur faire accéder à nos métiers, à la découverte d'un autre univers.
Yanis Roder, comment ça a été accepté dans votre établissement? Vous avez poussé de toute façon, vous, pour le projet?
Alors moi, j'ai bien sûr poussé. Hein, j'avais la chance à l'époque d'avoir un principal de collège qui a tout de suite été réceptif. Et donc, on a pu mettre en place, dès que Laurence Bloch a donné le feu vert et que Emmanuel Davier a monté la chose, on a pu lancer tout de suite, en fait, Interclasse, en le présentant aux élèves qui étaient un petit peu dubitatif au départ. Certains ont tout de suite compris l'intérêt, d'autres ne le voyaient pas, ne l'ont pas vu tout de suite. Voilà. Et puis après, voilà, ça s'est mis en place et on a pu commencer à travailler.
Alors, on va voir si vous avez bien travaillé, parce que dans cette émission, tous les vendredis, il y a un petit résumé de l'actualité de la semaine. D'ordinaire, c'est l'invité principal de l'émission qui commente cette actualité. Et ce soir, c'est Chloé, Ouria et Kelvin qui vont le faire. On va écouter ce mix qui a été mis en onde par Violaine Ballet.
Votre vie est marquée par une importante étape, l'armée.
Ce qui sera demandé aux jeunes d'une génération, c'est-à-dire 750 000 jeunes, de faire un mois de service national avec 15 jours d'intégration, c'est-à-dire 15 jours où on se retrouve tous ensemble avec une dimension d'hébergement collectif.
Pas de questions ? Moi j'en ai une. Qui parle anglais ici ?
Un mois de service obligatoire aux alentours de 16 ans, dont 2 semaines donc en internat. Voilà ce que dit le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à propos du futur service national universel promis par Emmanuel Macron. Objectif, permettre un brassage social entre les jeunes. Jimmy Losfeld, le président de la FAGE, une des principales organisations étudiantes, est un peu dubitatif.
Je vois pas comment, en un mois, on va pouvoir régler ce que l'école ne réussit pas à faire en tant d'années obligatoires.
Mais d'autres pensent que c'est une bonne piste.
Pendant un mois, on peut se dire, ah oui, c'est bien de faire ça pour son pays, ça me plairait, je pense. J'aime bien rencontrer des nouvelles personnes pour échanger, pour apprendre des cultures des autres, etc.
Bon pour le service.
Voilà pour les grands. Pour ce qui est des petits, l'année qui s'achève s'est bien passée pour ceux qui ont eu droit au fameux CP à 12 élèves dans les quartiers les plus défavorisés. Les enfants concernés ont bien vu la différence.
Il n'y a pas trop de bruit, c'est pas comme les autres classes. Trop de bazar. Ça repose la tête et le maître après il crie pas fort.
Silence ! Les enfants sont contents, les parents et les profs aussi, mais attention car parfois d'autres classes en ont pâti. Bientôt les vacances avec une grève des trains qui va continuer cet été. Sudrail et la CGT ont décidé de poursuivre le mouvement, mais ne dites pas aux grévistes qu'ils vont gâcher les vacances des Français.
C'est une bataille qui nous coûte, hein. C'est des vacances que je passerai pas aussi. Donc moi, mes vacances, elles sont flinguées aussi.
12 hommes d'une vingtaine d'années jugés depuis lundi devant le tribunal correctionnel de Paris pour proxénétisme. Ils avaient forcé des adolescentes, parfois très jeunes, à se prostituer. Des jeunes filles tombées dans leurs griffes par le biais des réseaux sociaux. La mère de l'une d'elles a tenu à témoigner.
Ils ont lavé le cerveau. Comme c'est des filles de cité, donc pas très fortunées, ils les ont appâtées par la facilité et l'argent. Ils leur disaient de travailler, travailler. Ils les bastonnaient, ils les ont menacées. On sait où tu habites, on sait tes parents, si tu veux pas de problème. Elle me dit, je suis foutue. Maman, je ne vaux plus rien.
Liberté, égalité, fraternité.
Mardi, le Conseil constitutionnel s'est penché sur la notion de fraternité à la demande de Cédric Héroux, cet habitant de la vallée de la Roya, poursuivi pour avoir aidé des migrants.
Parce qu'on demande aux Français ou aux Françaises de faire une distinction entre une personne noire qui est au bord des routes et une personne blanche. Est-ce qu'à une personne noire, doit-on demander les papiers ? Il y a M. Macron là, qui va rendre visite au pape, il faudrait qu'il prenne une petite leçon de fraternité, quoi.
Cari fratelli e sorelle.
Emmanuel Macron est bien allé voir le pape François mardi, mais il s'est mis à dos les organisations humanitaires en estimant que les bateaux qui viennent au secours des migrants faisaient le jeu des passeurs. Marine Le Pen, elle, salue ses propos.
C'était bien la peine d'insulter M. Salvini pour finir par dire la même chose que lui et se mettre dans sa roue.
Mamadou Gassama, a real-life superhero. Mamadou Gassama, lui, n'en finit pas d'être récompensé. Cet ex-sans-papiers malien qui a sauvé un enfant en grimpant sur la façade d'un immeuble a été honoré cette semaine à Los Angeles. Il a été sacré héros humanitaire de l'année lors de la cérémonie des BET Awards.
L'entrée des Français et des Danois sur la pelouse.
Eux ont encore bien du chemin à faire pour mériter un prix. Les footballeurs français n'ont pas franchement brillé lors de leur dernier match face au Danemark. Un match nul dans tous les sens du terme. Antoine Griezmann le reconnaît bien volontiers.
Je suis désolé pour les gens qui attendent beaucoup de buts ou des beaux gestes. C'était pas le cas aujourd'hui.
Au tour suivant, il va falloir mettre le paquet car ce sera l'Argentine avec sur le terrain un certain Lionel Messi. Il fait peur à tout le monde et notamment à Presnel Kimpembe.
C'est Messi, hein. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un sur cette terre qui puisse trouver le remède pour stopper Messi.
Et encore merci à Violaine Ballet pour ce petit résumé de l'actualité de la semaine. Ouria, qu'est-ce que t'as retenu, toi ?
De ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, si, enfin, j'ai quelque chose qui t'a intéressé, je sais pas.
Oui, il y a un sujet qui m'a intéressé, c'était sur le procès...
Le procès net.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, le procès du réseau de prostitution. Bah, eh bien, je pense que ces jeunes filles devaient être en grande détresse pour accepter l'inacceptable, en fait.
Absolument, et puis surtout, elles se sont fait avoir sur les réseaux sociaux, elles se sont pas méfiées, d'où l'importance de savoir bien décrypter tout ce qui traîne, justement, sur ces réseaux sociaux. Chloé, toi, qu'est-ce que tu as retenu?
C'est le service militaire que le président veut mettre en place.
Alors, on va te dire qu'il n'est pas tout à fait militaire quand même. Hein. Pour l'instant, service national universel, il n'est plus vraiment question de faire encadrer ça par l'armée, même si l'armée doit intervenir. Un mois, ça te dit quelque chose?
Je pense que la journée d'appel suffit amplement.
Oh, alors, voilà des citoyens qui sont déjà formés, qui n'ont plus besoin de formation supplémentaire. On va accueillir maintenant Patricia Martin et Guillaume Battin, qui évidemment font partie de toute l'équipe de ceux qui interviennent auprès des lycéens. Patricia Martin qu'on ne présente plus, hein, Patricia. Guillaume Battin du service des sports. Patricia, vous êtes sur l'aventure interclasse depuis le début?
Depuis le début, ça fait la troisième année. Alors, on dit que c'est formidable pour les élèves parce que ça change leur vie, qu'ils ont une autre vision sur du monde, etc. Et moi, je dirais que ça change aussi notre vie à nous, producteurs, journalistes, gens de radio, parce que c'est une expérience extraordinaire, qu'il suffit, en fait, de regarder un de ces jeunes comme ça dans les yeux, de voir. Auriane, en plus, elle a la chance, elle a des très jolis yeux. Mais comme ça pétille, il suffit de tendre une main, de dire trois mots, et puis l'échange se fait très naturellement. Et moi, pour ma part, ça a été crescendo. La première année, j'étais à Mantes-la-Jolie, ensuite je suis allée à Roubaix, et cette année, j'étais à Aulnay-sous-Bois. À Aulnay-sous-Bois, ça a été, mais j'en suis amoureuse de tous ces gosses. Mais franchement, c'était extraordinaire, extraordinaire. Et tout à l'heure, Auréa, il y a deux mots qui ont été prononcés que moi je retiens. C'est toi, tu as parlé de confiance. Effectivement, moi j'en ai eu un dans mon groupe, il n'avait pas du tout confiance en lui, mais moi je l'ai vu face à Plantu poser des questions, mais comme moi je n'aurais jamais fait à son âge, mais jamais. Et Laurence Bloch parlait tout à l'heure d'affection. L'affection qu'il y a entre eux et nous, et l'affection qu'il y a entre nous, gens de radio. C'est-à-dire que moi j'ai découvert des gens comme Géraldine Allot, par exemple, Julie Pietri, qui sont des filles qui sont en reportage, donc elles ne sont jamais là, on ne les voit pas beaucoup. Yann Gallic, c'est la même chose. Vincent Pellegrini, qui est à France Info.
Vous êtes en train de nous expliquer que ça soude les gens de France Inter, c'est ça?
Mais exactement. Voilà. Soudé à jamais, vous allez voir comment on fait. On est en béton maintenant.
Guillaume Battin, vous, ça fait un petit moment que vous faites de l'éducation aux médias, même avant Interclasse. Qu'est-ce qui est important dans cette opération pour vous?
Moi, je rejoins ce que dit Patricia. J'apprends aussi beaucoup. On leur donne tous ensemble beaucoup de choses tout au long d'une année scolaire entière, parce qu'on y va 6-7 fois, hein, pour la plupart d'entre nous. Mais moi, j'ai besoin d'être au contact de la jeunesse française. Vous savez, nous, les journalistes, on nous accuse toujours d'être dans notre microcosme parisien, et nous, journalistes sportifs, aussi, on va dans les stades, on voit les personnalités sportives et on va moins sur le terrain, le vrai terrain, la rue, les quartiers, les petits stades de quartier, etc. Et chaque fois que je vais au Blanc-Ménil l'année dernière ou à Grigny cette année, j'ai un échange que j'ai pas ailleurs, que j'ai pas dans ma vie privée, que j'ai pas dans ma vie professionnelle et que j'ai dans ces moments-là. J'ai aussi cette chance de faire partie du dispositif interclasse. Là, ce sont eux qui me donnent des choses. Et puis, je m'implique aussi là-dedans parce que moi, petit, j'ai souffert au collège et au lycée de trop de théorie, de pas assez de pratique, de concret. On nous a rabâché les oreilles. Faut bien travailler à l'école, t'auras un beau métier. Aujourd'hui, c'est peut-être t'auras un beau métier. Mais c'est quoi un métier? C'est quoi la vie professionnelle? Donc c'est aussi un petit peu de cette transmission du quotidien, respect professionnel, des compétences, de l'apprentissage, de la ponctualité, des règles aussi qu'on apprend dans notre métier, comme pour plein d'autres, qu'on leur transmet un petit peu. Et je pense que c'est aussi une petite bouffée d'air dans l'école qu'on leur donne.
Vous avez organisé une rencontre entre des élèves et des journalistes de Charlie Hebdo?
Juin, le dessinateur de Charlie, et Mishka, une journaliste, parce que au début de l'année, on discute beaucoup entre nous. Alors il y a la thématique liberté, égalité, fraternité, mais qu'est-ce qu'on va en faire concrètement? L'année dernière, je sais plus ce que c'était, mais on est allé
les lieux.
On est allé à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Et là, c'était liberté, égalité, fraternité. Et dans l'éventail de sujets, alors moi, comme je suis journaliste sportif, ils en profitent toujours pour tenter d'aller à Clairefontaine ou voir les footballeurs. C'était pas possible.
Les garçons, parce qu'il y a des filles que ça vraiment.
Ça saoule aussi.
Ça saoule. Ouais.
Et le sujet de Charlie Hebdo, de tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les théories du complot, sur la responsabilité des journalistes, sur la couverture des thèmes de l'actualité qui reviennent souvent, et ben là, il s'est reposé. Ça a été le cas d'ailleurs ces dernières années sur Charlie Hebdo. Et puis là, on a franchi le pas, on les a sollicités. Ils ont été assez rapides pour nous donner l'autorisation de les voir. Ils sont venus ici à France Inter. On n'a pas pu aller chez eux pour des questions de sécurité. Et ils ont posé des vraies bonnes questions après l'instant de timidité. Ils nous ont aussi bluffés tous.
Yannis Roder, comment vous réagissez-vous quand vous êtes face à un élève qui est dans la théorie du complot? En tant que professeur?
Eh bien, la première chose à faire, je pense, sans donner de leçons à personne, hein, c'est d'abord de montrer que ce qu'il vient de dire est intéressant. Et donc de ne pas tout de suite ne pas rejeter ce qu'il a dit et le mettre en confiance en disant qu'on va discuter de ce qu'il a dit, que c'était intéressant, voilà. Et après essayer de pied à pied de démonter les arguments très calmement en amenant la science, parce que c'est celle qui permet de démonter les élucubrations les plus délirantes. Et donc toujours dans le calme, toujours en montrant le respect que l'on doit montrer à chacun de ses élèves, même quand il dit absolument n'importe quoi.
Kelvin, on en vient à ton reportage. Hein. Yeah. Tu nous as déjà bien vendu deux fois là, sur les stéréotypes de genre. Alors, il est vraiment temps qu'on aille écouter ce que tu as fait avec tes camarades. C'est intéressant parce que cette année quand même a été dominée par le mouvement MeToo, par cette libération de la parole des femmes. Et on s'est posé des questions qu'on ne se posait pas forcément avant, et notamment celle des stéréotypes de genre chez les très jeunes. Toi, t'es allé où? Dans une école maternelle, c'est ça? On va écouter le reportage dans cette école.
Tiens, est-ce que tu peux ramasser les ciseaux qui sont par terre et remettre dans la caisse du docteur?
Nous sommes à l'école maternelle Prévoyance, pas très loin de notre collège. Est-ce que ça existe, le sexisme, quand on a 5 ans? Stéphanie est maîtresse de grande section.
À l'école, les enfants sont tous égaux. Tous les enfants qui veulent aller au coin poupée vont au coin poupée, garçons ou filles. J'ai même des chefs de rangement qui balaye dans la classe. Et je pense que j'ai d'ailleurs plus de garçons qui ont envie de balayer que de filles.
Les élèves sont très impressionnés par notre micro, mais on a demandé à cette petite fille si elle pensait que certains métiers étaient réservés aux garçons.
Les voitures et réparer les motos.
Stéphanie, la maîtresse, a-t-elle été formée pour lutter contre les stéréotypes?
Pas du tout. J'ai été formée il y a quelques années déjà. C'est un sujet actuel en fait, c'est à la mode, c'est maintenant, mais on n'en parlait pas avant. En fait, les stéréotypes, on a l'impression qu'ils apparaissent un tout petit peu plus tard, en élémentaire. C'est là où on leur dit « Stop, toi t'es une fille, tu joues plus avec nous les garçons. Toi t'es un garçon, tu vas jouer avec les garçons, tu joues plus avec les filles. » Enfin voilà.
Direction maintenant un magasin de jouets du centre commercial Villep avec la sociologue Mona Zikai.
Moi j'ai fait des observations en magasin de jouets. C'est-à-dire je me suis fait embaucher comme vendeuse pour voir un petit peu comment ça se passait de l'intérieur. Sans préciser que je faisais une enquête, j'analysais à la fois le comportement de mes collègues et le comportement des clients. On accepte plus que les filles aillent vers des jouets dits de garçons que les garçons aillent vers des jouets dits de filles. Et j'ai épluché les catalogues de jouets de l'ensemble des enseignes que j'ai trouvées cette année. J'ai trouvé qu'une seule fille en train de faire de la science. Et ça borde leur champ des possibles.
Ce qui nous a le plus surpris dans ce reportage, c'est que tout le monde se renvoie la balle. Entre les profs, les fabricants de jouets, les parents. C'est toujours la faute des autres. Les stéréotypes disparaîtront si tout le monde s'aperçoit qu'ils existent. Le changement commence par soi-même.
Bravo à Kelvin pour ce reportage, bravo aussi à Elena Pavel, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors vous êtes professeur dans le collège de Kelvin, vous avez accompagné les enfants, vous avez supervisé ce reportage, comment ça s'est passé de votre côté?
Nous on est un petit peu habitués, hein, Georges Roux, ça fait 3 ans qu'on suit le projet d'interclasse.
Dans le 19e arrondissement de Paris,
voilà,
je précise.
C'est plutôt cadré. Ils avaient pris les rendez-vous avec Dorothée Barba, ils travaillent assez en autonomie avec la journaliste, nous on est plutôt en soutien ou en préparation entre les séances et les reportages. Et donc ils s'étaient organisés comme des grands, et après nous on vient sur les lieux de reportage parce que c'est bien d'avoir aussi un deuxième adulte. Et là on les découvre généralement sous un jour assez différent.
Kelvin, qu'est-ce qui t'a apporté ce reportage? Est-ce qui t'a appris des choses d'abord?
Mais oui, il m'a beaucoup appris de choses. Et surtout, en fait, qu'on ne se rend pas compte, mais les stéréotypes, ça commence bien quand on est petit. Parce que pour moi, dans ma tête, ça a commencé quand on est en primaire avec les histoires de « Non, t'es une fille, tu ne joues pas au foot. T'es un garçon, tu ne fais pas de la corde à sauter. » Alors que ça commence bien en maternelle avec les jouets, la ginette, les voitures.
Donc maintenant, tu fais attention dans ta vie de tous les jours. Stop, attention, les machos. C'est comme ça?
Ah. Oui.
Ah, super.
À la base, je suis pas trop macho, mais ça m'a apporté beaucoup de connaissances.
Voilà. Vous êtes encore plus attentif. Emmanuel Davy, un petit mot du choix de ces reportages. Donc, il y avait ces 3 mots, et à partir de là, il y avait cette liberté de choisir.
Alors, c'est vrai qu'avec Laurence Bloch, on a décidé de leur proposer de travailler sur la devise républicaine parce que on a pu se rendre compte depuis le lancement d'Interclasse que la devise était très désincarnée pour ces jeunes. Et moi, je m'en suis rendu compte notamment à Saint-Denis, puisque lors de la première saison, 2 mois après, il y a eu donc les attentats de novembre 2015. Et c'est vrai que ça a suscité de grands débats dans la classe, et on était avec Yanis Roder. Et on a essayé de leur faire comprendre pourquoi, à travers ces attentats, la devise avait été atteinte. et ils ne le comprenaient pas vraiment. Alors évidemment, on a mis des mots, on a pris le temps d'expliquer, et encore une fois, le temps long, c'est vraiment là-dessus que repose le succès de ce dispositif, et c'est ce qui fait qu'il est unique dans l'audiovisuel français, et vraiment, insistons là-dessus, de consacrer du temps. On ne peut pas balayer toute la défiance qu'il y a à l'égard des médias et des institutions en allant voir simplement 2 heures des élèves. C'est impossible. C'est du vernis d'éducation aux médias et à l'information. Ça n'existe pas. Il faut travailler longtemps. Il faut qu'il y ait une relation d'affection, et je le dis vraiment, qui se mette en place avec eux, pour qu'il y ait quelque chose qui se décrispe. Et Ouria était là la première année à Saint-Denis. Et c'est vrai qu'Ouria, je m'en souviens très bien, elle n'était pas mutique, mais elle était hyper timide. Et ça a créé chez beaucoup d'élèves ce qu'on peut qualifier d'un choc cognitif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, et ils se rendent compte qu'il y a des passerelles qui peuvent se mettre en place. Et donc ce temps long, il est nécessaire pour avoir des débats, et notamment sur la devise républicaine. Et c'est pour ça que Laurence Bloch a suggéré, si Laurence, que l'on travaille sur cette devise cette année.
Yannis Roeder, sur ce travail sur le temps long, je pense que vous rejoignez ce que dit Emmanuel Davier. Pour vous, c'est important de travailler sur un projet.
Ah bien sûr, c'est fondamental.
Ça change même la façon de travailler au sein des établissements.
Alors, ça change la façon de travailler au sein des établissements, ça change les rapports avec les élèves, les rapports changent, et la confiance s'installe entre professeurs, élèves et journalistes, élèves, et journalistes, professeurs d'ailleurs. Ça marche en triangle. Donc cette confiance, elle s'installe peu à peu. On ne peut pas, je ne crois absolument pas, à la vertu ce qu'on appelle ça, one shot, si vous voulez, de 2 heures, comme l'a dit très justement Emmanuel Davier. Allez hop, je viens faire mon petit truc sur le complotisme et sur l'éducation aux médias. Ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut prendre le temps avec les élèves, que cette confiance s'installe et le travail se fait sur le fond.
Auréa, tu me disais, je le voyais plus pareil, le professeur.
Monsieur Roeder ?
Ouais.
Ouais, bah, c'est vrai. Bah, je l'ai eu en 4e et puis en 3e. Bon, c'est vrai que...
Pauvre.
C'est vrai que, arrivant en 3e, mon regard a changé. Enfin, en 4e, je voyais juste comme un prof. D'ailleurs, il est toujours prof.
A priori,
hein, je le vois,
oui,
toujours comme un prof,
ouais.
Mais je sais pas, il y a une sorte de lien qui s'est créé. Et d'ailleurs, pas qu'avec moi, avec pas mal d'élèves. Et ça, c'est juste super beau. Enfin, je trouve ça magique, magnifique. Et j'en suis hyper contente.
Bon, on va pas le faire pleurer tout de suite, c'est trop tôt. Surtout que je voudrais quand même vous faire écouter, on a pris un peu de retard, mais un tout petit peu un extrait d'une chanson, parce que Interclasse, ça produit plein de choses formidables. Il y a même eu cette chanson qui a été enregistrée ici, dans les locaux de France Inter.
Vous enregistrez ? 223 sur le maillot de l'Afrique, on est fiers, moi c'est pour ça qu'on est quitte. On sait que derrière l'équipage, moi qui pourra sauver mon naufrage. 237, toi c'est nous les bestes, tu peux m'approcher, non, je n'ai pas la peste. Pourquoi tu as peur de moi ? Tu crois que je vais aller t'enterrer dans les bois. 225, je suis ivoirien, je suis là, non, je ne suis pas un moins que rien. Je tiens mon équilibre comme Podia. Et la chance viendra à moi. En Afrique, quoi, c'est la misère. Au notre continent, tous les renards seront fiers. Moi, je ne m'appelle pas Obama, mais pour mon pays, je combattrai comme Mandela.
Une chanson 100% chantée par des filles. Hein.
Oui, je précise également, elles ont entre 13 et 14 ans. Et la maturité des paroles est vraiment extraordinaire. Moi, à chaque fois que j'écoute cette chanson, j'ai des frissons.
C'est vrai.
Et réalisé avec Audrey Ripoul.
Très belle chanson. Un petit bilan chiffré quand même, Emmanuel. Combien d'élèves concernés par le dispositif depuis 3 ans, plusieurs centaines ?
600.
600 élèves.
800 personnes impliquées depuis le début avec les enseignants, les équipes d'inter et les élèves.
De toute façon, Interclasse, c'est encore les élèves qui en parlent le mieux. Chloé, ça suscite des jalousies dans ton établissement. Enfin, ça suscitait pour ceux qui n'étaient pas justement dans la classe, qui concernés par le dispositif Interclasse.
Un peu, oui, parce que nous, notre classe, c'est la seule classe littéraire dans le lycée. Donc c'est pour ça qu'on nous a choisis et on nous a dit « Vous avez encore un projet ?» Parce que d'autres classes ont pas du tout de projet, mais nous, on a des projets théâtre, des projets cinéma et encore le projet interclasse. Donc on était très contents qu'on nous ait choisis, nous. Et les autres, bah, tant pis pour eux un peu, mais c'est...
Toi, t'es pas possible quand même, hein. Tu veux pas faire ton service, les autres, c'est pas bien grave. Bon, en tout cas, Laurence Bloch, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut que ça continue, cette affaire.
Oui, absolument. Et il faut quand même qu'on dise à Chloé qu'on peut écouter la radio, ma chère, et France Inter sur le smartphone, hein. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, donc ça c'est très important.
C'est le grand truc de
oui,
France
ça doit
Inter.
Continuer, mais je veux dire quelque part, je pense que l'éducation aux médias, c'est l'affaire de tous. Souvenez-vous, il y a eu cette idée de la réserve citoyenne. C'est pas seulement France Inter, c'est l'affaire de tous, que de faire en sorte que effectivement la liberté, l'égalité, ce soit, c'est un dû pour chacun des enfants de ce pays. Et je pense que c'est vraiment l'affaire de tous.
Guillaume Batin, c'est ce que vous m'avez dit quand on a préparé l'émission aussi. Tout le monde devrait s'impliquer.
Moi, je pense que ça devrait être quasiment une matière pas autant aussi importante que le théâtre ou le français, je sais pas, mais que de temps en temps, on puisse expliquer aux élèves la bonne démarche pour consommer l'information. Avoir quelques réflexes de journaliste quand on est citoyen, croiser les sources, ce qu'on a beaucoup fait hein, ces trois dernières années, se poser des questions sur d'où vient l'information, qui la donne, et puis avoir plusieurs sources de médias, pas regarder toujours les mêmes habitudes que les parents, pas toujours TF1, Chloé, mais mélanger d'autres sources d'information, la radio, la presse écrite, etc. Voilà, avoir cette démarche. Peut-être que Interclasse va donner des idées au ministre de l'Éducation nationale, je ne sais pas.
Alors, on va continuer à parler de tout ça tout à l'heure, puisque le téléphone sonne sera consacré à l'éducation aux médias pour les élèves, mais même au-delà des élèves. Je voudrais quand même, l'émission se termine, que chacun des trois élèves qui vont nous quitter pour le téléphone sonne nous dise vraiment en deux mots le message le plus important selon eux. Kelvin, pour toi.
Alors, pour moi, le message le plus important, c'est que... Avec ce projet, on peut apprendre plusieurs choses et que au fil du temps, on arrive à battre sa timidité et que ça nous permet de nous développer.
Ouria, ouais, en 10 secondes.
Pour moi, le message le plus important, c'est comme je pense l'avoir dit tout à l'heure, c'est d'avoir confiance en soi et ne jamais hésiter, foncer.
Et y aller. Et Chloé, pour toi ?
Pour moi, c'est informez-vous bien et faites attention parce que la vérité, elle se cache, elle est bien profondément, il faut aller la trouver, quoi.
Emmanuel Davier, tous ces reportages formidables qui ont été faits cette année, on les retrouve à partir de dimanche à 16h sur France Inter.
Exactement.
Émission donc, spéciale que vous avez l'honneur d'animer.
À retrouver en podcast sur le site, sur les smartphones, les tablettes. Et ce que je voulais dire, juste d'un mot, il faut que chaque journaliste s'empare de cette mission. Il y a 35 000 journalistes en France. Si chacun donnait des heures, je vous assure que ça ferait un très très beau volume horaire pour que tous les enfants puissent en bénéficier.
Le message est passé. Merci beaucoup Emmanuel Davier. Merci à tous. Merci aussi à Sonia Leglen qui a préparé l'émission Interclasse pour cet été et tout l'habillage qu'on a entendu au cours de cette émission. On se retrouve donc après le journal de 19h pour le téléphone sonne. On sera avec le directeur délégué du Clémy et avec Mehdi Moudane qui est un pur produit d'Interclasse.